Radio Foot International.
Antoine Grenier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Rémi Ngono.
Bonjour, bonjour mon cher et surtout bonjour à toutes les auditrices parce que, alors voilà, il y avait le 14, le jour de la Sainte Parisienne, Saint-Valentin.
Le plus latin lover de tous les Camerounais. Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour.
Notre ami de Liberté 6 à Dakar. Ah. Bonjour Chérif Guémont.
Bonjour, bonjour à tous.
Notre confrère de SoFoot, hola Alejandro Valente.
Hola.
Le chef de service est là, alors attention messieurs, du sérieux. Bienvenue dans ce café des sports. Qu'est-ce que je vous sers? Un soupçon de Neymar. Attention, ça peut être toxique à haute dose. Le Brésilien attaqué par un ancien international qualifié de monstre. Neymar durement critiqué. Est-ce exagéré, à votre avis? L'attaquant parisien est-il un incompris ou bien sa proximité avec les autres Brésiliens du groupe du PSG met-il le projet en péril? On verra ça. En tout cas, si la défaite contre Madrid a entamé le crédit de Neymar, la gestion de son cas par le Paris Saint-Germain et notamment par le staff pose question. Également au menu, la Ligue Europa, les clubs français à l'épreuve des 16e de finale. Allez, Lyon et Marseille gagnent, mais avec des scénarios bien distincts et en laissant des impressions bien différentes. Enfin, des nouvelles de la FIFA et de son président Gianni Infantino, jamais en retard d'une réforme à mener, décidément. Cette fois, il s'attaque au transfert. Derrière le zinc du Café des Sports ce vendredi, David Finzel et son sirop de menthe verte, forcément, et Laurent Salerno qui fait un extra en remplacement de Guillaume Ploquin, retenu à la maison et qu'on embrasse. Le Café des Sports est ouvert, venez nombreux.
Neymar, attention quand même à pas trop en faire. Neymar, toujours en possession du ballon. Oh là là.
Il n'est pas passé, mais...
Ouais, ils se sont mis à 3 hein, pour le stopper. Ouais. Neymar, il va provoquer encore ses adversaires. Oh là, ça passe une fois, deux fois, trois fois. Ça passe toujours, il a pu frapper cette fois. Neymar, l'accélération de Neymar. Oh, ça met beaucoup de monde dans le vent. Neymar toujours, Neymar avec Dani Alves. Va pouvoir centrer Dani Alves et c'est contré par Marcelo.
C'est un peu trop profond hein, ce ballon pour Daniel Alves. Et peut-être Neymar qui amène trop le ballon proche de ses partenaires. Dommage que Neymar ait gâché cette belle opportunité parisienne.
Il en aura d'autres, Daniel. Oui, allez, retour de combat, Neymar.
Petit résumé un tout petit peu malhonnête aussi de la prestation de Neymar face au Real Madrid. On va d'abord passer par Rémi Ngono, forcément, un homme heureux aujourd'hui, même deux jours après la victoire du Real sur le PSG. Allez, lâchez-vous, Rémi.
Quand j'ai quitté d'ici vendredi, devant Alejandro Valente et Xavier Barré, qui a pris congé provisoirement pour une semaine, j'avais bien dit que ce sera 2-0, c'est-à-dire au moins que le Real allait gagner par 2 buts d'écart. Et eux tous, ils avaient gagné en donnant, bien sûr, comme d'habitude, Paris Saint-Germain, grand vainqueur de la Ligue des Champions. Et comme d'habitude, ils sont revenus avec les mêmes couplets cocoricotants de la France. L'arbitre a mal joué, comme si l'arbitre était au stade. Donc, aujourd'hui, au moins, pour une fois...
Il était au stade.
De toutes les façons, c'est pas l'arbitre qui a refusé à Paris Saint-Germain de marquer 8 buts comme il l'a fait contre Dijon. Donc, à une certaine période, lorsque vous venez jouer le catch, vous attrapez Kroos et vous dites finalement que l'arbitre est mauvais parce qu'il n'a pas donné le carton rouge, parce que le deuxième carton c'était un deuxième jaune, donc Léo Cerson n'aura pas pu finir son match et l'arbitre vous fait ce cadeau là.
Heureusement que le sujet
vous
c'était Neymar.
Je laisse Rémi s'échauffer. On m'a dit de parler du Real, donc je voudrais quand même dire que ce qui disait ici que le Real c'est totalement un épouvantail, que ça vaut un pesant de carton, qu'aujourd'hui qu'ils me disent donc maintenant là où se trouve leur corbeau Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, voici Alejandro Valente. Est-ce que tu peux t'excuser devant les millions d'auditeurs qui ont eu confiance en toi et qui ont cru à tes prophéties de Malaquie faisant de Real une maison morte?
Ah bah non, je vais pas m'excuser. Je pense, on va pas. C'est le sujet n'est pas le Real Madrid aujourd'hui. Mais
ah mais c'est ce qu'il a dit. Hein, c'est lui qui a posé la question.
Bon, non, je vous ai posé juste à vous la question. Je pose la question maintenant à Gilles Verdez. Neymar, coupable ou victime dans cette défaite?
Neymar, il est coupable.
Il est coupable d'avoir signé au PSG. C'est pour ça que j'en veux. Parce que
remonte au tout début.
Mais non, mais il savait très bien, en venant au PSG, qu'il n'aurait pas les mêmes coéquipiers qu'à Barcelone. Il savait très bien qu'Emery n'était pas un bon entraîneur et qu'au bout de 3 séances d'entraînement, il lui parlerait plus tellement il le trouve nul. Il savait très bien qu'il venait à Paris pour l'argent. Et voilà, il savait tout ça. Et moi, ce que je lui reproche, c'est sachant tout ça, touchant son argent, à lui quand même de montrer qu'il est impliqué. Là, il nous a montré qu'il n'était pas du tout impliqué dans le projet parisien.
À moitié impliqué.
Shérif Guémour.
Ouais, je vais vous lire ce que j'avais écrit dans l'édito de SoFoot de cet été avec l'arrivée de Neymar. Je cite, « Avec l'arrivée de Neymar, Emery aura la délicate mission de sublimer son équipe en y injectant un joueur-équipe. Le pari est réalisable, mais une greffe réussie nécessitera une nouvelle formule tactique optimale, incorporant un joueur d'exception. » Dans un groupe parisien, pas toujours en phase avec les préceptes du coach Bass. Tout ça pour dire qu'il y avait un pari, c'était justement d'injecter dans un collectif qui n'était pas huilé, qui n'était pas encore au point, un joueur équipe, c'est-à-dire un joueur qui fait redondance, qui prend tout l'espace qu'on lui laissera. Et ça, il sait le faire en bien et en mal. On l'a vu par exemple, il y a le vrai Neymar quand même, on va quand même rétablir certaines vérités. Le vrai Neymar, c'est celui qu'on a vu à Glasgow contre le Celtic. Le pari gagne 5-0, tout le monde marque. Neymar vraiment joue sur les deux registres qu'on lui préfère, c'est-à-dire à la fois le joueur qui fait la différence à lui tout seul, et il l'a fait, et à côté, le chef d'orchestre, c'est-à-dire qui fait marquer tout le monde, un doublé de Cavani, un but de Neymar, voilà. Ça, c'est le bon Neymar. Et le mauvais Neymar, là, je suis d'accord avec tout le monde, j'aime pas les chasses à l'homme, la curée, hurler avec les loups, mais là, le comportement de Neymar au Bernabéu a fait qu'il a désagrégé un collectif qui était déjà pas très bien en place. Exemple, Lo Celso, complètement dépassé par les événements. Et le pire, c'est que quand il commence à jouer solo plutôt que perso, le collectif se désagrège. Mbappé commence à faire comme lui, c'est-à-dire qu'on a parlé des raids un peu solitaires de Neymar. Mais Mbappé a fait pareil. Très souvent, il est parti, il avait de l'espace, il l'a pris, sans trop lever la tête. Cavani, jamais servi, bon ça on l'a tous vu. Et ben voilà, quand devant ça ne fonctionne plus... on peut pas espérer bouger une équipe qui n'attendait que ça finalement. Neymar, donc oui, Neymar coupable.
Neymar,
oui.
le boulet du Paris Saint-Germain actuellement, Rémy N'Golo.
Ça me fait beaucoup rigoler. Parce que qui finalement sera un bon joueur pour le Paris Saint-Germain? Bien évidemment, mais on va dire que oui, passé par là, mais sauf que quand il quitte le Paris Saint-Germain, il remporte quand même le Ballon d'Or. Quand, bien évidemment, Ronaldinho vient là, tout le monde est critique, et après, quand il s'en va, il remporte le Ballon d'Or. Et maintenant, on me dit que le Neymar qui a éliminé le Paris Saint-Germain l'année dernière, c'est lui qui met le doublé contre le Barça, la remontada est signée
contre le PSG,
Neymar. Voilà, le PSG, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il était dans le Barça et c'est lui qui élimine le PSG avec le doublé. On voit comment un Neymar est totalement responsable. Et ce Neymar arrive maintenant au niveau de Paris. Et d'ailleurs, j'ai vu Neymar au niveau du Barça. Messi était blessé pendant 2 mois. Neymar a porté le Barça seul. Et il était assisté par Suarez. Il arrive maintenant en France. Eh bien, on commence à me dire que non, il est trop égo. Il joue soliste. Il fait ceci, il fait cela. Mais attendez, le jeu de Neymar, c'est d'abord éliminer. Le jeu de Neymar, c'est d'avoir des gens qui peuvent bouger à côté de lui. Mais déjà, ils ne savent même pas faire un appel, ils ne savent rien faire, et même l'entraîneur lui-même, il est totalement naze, et vous dites aujourd'hui que c'est Neymar. Non, moi je vous dis une seule chose, aujourd'hui il y a un proverbe africain qui est souvent très clair et très précis: quand le chasseur est mauvais et rentre bredouille de la chasse, il casse l'arc et les flèches.
Gilles Verdez.
Non mais on est d'accord. Rémy se trompe complètement. Quand Neymar est arrivé de Barcelone à Paris, ce n'est pas un progrès sportif. C'est une régression sportive. Il est pas venu pour le projet sportif. Il est venu pour autre chose. Il est venu pour l'argent. Voilà. Donc il a son argent. Mais quand Weah est parti de Paris, mais non, quand Weah est parti de Paris à Milan, c'était pour une progression. Voilà. Alors que Neymar, là, il est pas en progression. Donc c'est pas le même Neymar. Neymar peut pas être le même quand il est entouré de Messi, de Suarez, et quand il est entouré de Cavani avec qui il a pas envie de jouer. Et il y a que Mbappé avec qui il a envie de jouer. Donc c'est pas le même Neymar, c'est pas le même joueur dans la même situation. Donc il faut pas juger Neymar à l'aune de ce qu'il était à Barcelone. Neymar là, il s'aperçoit, alors je le plains pas parce qu'il a touché son salaire, mais il s'aperçoit qu'en fait le projet sportif qu'on lui a vendu, c'est pas un vrai projet sportif.
Alejandro Valente.
Je crois pas qu'il soit venu seulement pour l'argent. Je pense qu'il est venu à Paris parce que Paris est une étape dans ce qu'il imagine, sa montée en puissance, une étape qui doit lui permettre de disputer la prochaine Coupe du Monde dans les meilleures conditions, en choisissant ses matchs cette saison, en dosant ses efforts, en arrivant dans des conditions optimales à la Coupe du Monde, avec l'idée de la gagner et de gagner dans la foulée le Ballon d'Or et de préparer pour le mieux la suite de sa carrière, probablement au Real Madrid ou ailleurs, voilà, en tout cas pas au Paris Saint-Germain. C'est ça pour moi la véritable ambition de Neymar, et je pense que du côté parisien, on n'attendait pas, comme disait Chérif, que Neymar vienne ici pour donner les meilleurs face aux Celtics. Il est venu ici pour disputer ses grands matchs comme celui de mercredi dernier, et on a vu un Neymar égoïste, peu impliqué dans le collectif et qui n'a pas aidé son équipe à réussir la performance que le Paris Saint-Germain pouvait réaliser face à Real Madrid, qui est très prenable, je continue à le penser.
Oui. Non, on va juste préciser deux choses. La première, c'est que on a vu le mauvais Neymar, le mauvais génie de Neymar. On a vu, par chance, le bon génie de Neymar. Il y a un match retour. C'est lui qui pourrait éventuellement faire basculer la qualification dans trois semaines, de la même façon que lui, il avait été l'artisan de la remontada avec le Barça, comme le rappelait notre ami Rémi.
Tout seul, il pourra pas remonter.
Pas tout seul. Il peut inspirer l'équipe du PSG. Ça va très vite. Un coup franc à la 20e minute et tout peut changer.
Pour l'instant, il l'a pas bien inspiré. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une ambiance assez pourrie quand même.
Je vais me faire l'avocat du diable par rapport à ça. Est-ce que Neymar, d'accord, est un individualiste. Est-ce que c'est pas aussi un peu ses coéquipiers qui comprennent pas sa manière de faire?
Alors au-delà de ses coéquipiers, pour moi, c'est le staff qui ne le comprend pas. Et là, il y a une vraie inadéquation. Et le reproche que je fais au Qatar, quand vous engagez Neymar, à mon avis, vous en faites la star de l'équipe, il faut quand même, alors je dis pas que c'est pas la république des joueurs, mais il faut quand même que Neymar soit en phase avec l'entraîneur. Et Neymar Emery, ça ne peut pas marcher. Ils l'ont vu tout de suite, ça ne marche pas. Et là, en cassant le capitaine brésilien, Thiago Silva, en faisant partir Lucas sans beaucoup lui parler, Emery s'est encore distancié du clan brésilien, encore distancié de Neymar. Mais Neymar, il n'a aucunement envie de jouer pour cet entraîneur dont il ne comprend pas les choix tactiques, qui fait des remplacements qui lui paraissent baroques et qui ne le mettent pas en bonne situation. Donc cette inadéquation, j'ai peur pour le PSG qu'elle crée une sorte de déchirement, de divorce, de séparation inéluctable.
Est-ce qu'on peut voir, par exemple, comme pour un Ibrahimovic ou comme un Pastore qui devait incarner le projet parisien et cette volonté de remporter la Ligue des Champions, est-ce que Neymar sera finalement un nouveau joueur star sur la liste à ne pas remplir son contrat,
Rémi Gaudin ? De toutes les façons, aucun n'a rempli son contrat. Quand Pastore, on nous a vendu Pastore à 42 millions, il est venu. Finalement, on a vu que c'était un enfanson. Et maintenant, on nous a dit qu'on prend le plus grand défenseur du monde. On a même constaté qu'il ne pouvait même pas être remplaçant dans l'équipe du Brésil, à savoir Thiago Silva, la pleureuse, la diva. Donc pratiquement, il a été quand même acheté à 49 millions. Après, on nous a fait comprendre qu'il fallait prendre le plus chevelu, c'est-à-dire que celle qui avait encore beaucoup plus de cheveux, à savoir David Luiz, lui aussi, il est venu, il s'est cassé totalement. On nous a dit qu'il y avait Lucas qui pouvait dribbler tout un stade, il est venu, il a glissé sur lui-même. On nous a dit que Lavezzi, il est devenu un laveur de voiture. Finalement, on nous a dit que Ibrahimovic était un costaud joueur et tout. Certes, il était costaud, mais on a vu finalement que Cavani était en train de bouder parce que lui, il jouait d'un côté. Donc, à une certaine période, que dans cette équipe-là, tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un véritable entraîneur, parce que je dis que une équipe, c'est d'abord ce qu'on appelle un entraîneur. C'est celui-là qui façonne la maison. C'est comme l'ingénieur, c'est comme le concepteur. Jusqu'à présent, le Paris Saint-Germain n'a pas eu un entraîneur ayant une poigne. Regardez par exemple Zinedine Zidane. Il met par exemple Gareth Bale au niveau du banc, mais Gareth Bale ne boude pas. Mais avec les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est des femmes qui se plaignent, qui font les tweets, c'est les hommes qui arrivent en retard aux répétitions ou bien rentrent des vacances. Il n'y a personne ayant une certaine personnalité. Et d'où ce qu'on appelle aujourd'hui une basse-cour où toutes les poules chantent. Ça ne peut pas aller. Le Paris Saint-Germain, comme ça là, Neymar a fait un mauvais choix, mais c'est un bon choix stratégique. Il quitte Barcelone, il gravit un petit échelon, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, et comme RFE disait, il finit par le meilleur club du monde, le Real Madrid. C'est normal, il veut gagner la 13e ou la 14e Ligue des Champions. Bon, ce n'est que le Real Madrid. Donc, le Paris Saint-Germain n'est qu'une passerelle, voilà.
Chérif Unai Emery, il a pas la capacité technique de gérer un joueur comme Neymar, ou il a simplement pas les épaules?
toute façon, on avait fait le même constat après la remontada, enfin le 6-1 qu'ils ont pris l'année dernière, ça deviendrait de toute façon très difficile pour Emery de pouvoir continuer. Est-ce qu'on peut se remettre d'un choc pareil? Difficilement, mais pour répondre indirectement à la question de Rémy Ngono, même avec beaucoup d'argent, quel grand entraîneur a envie de venir au PSG?
Ça, c'est une bonne question.
C'est tout.
Qui pour remplacer un Emery par
exemple? Il y en a. La liste est très longue. Pochettino de Tottenham,
attends, tu viens quand même de me dire quelque chose de terrible là. Mais le PSG avait eu la chance d'avoir, par exemple, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti n'était pas un mauvais entraîneur en tant que tel. Le problème, c'est que au moment où ils ont été incapables de maintenir, de garder un entraîneur du type Carlo Ancelotti. Et maintenant, exactement, comme je suis en train de le dire, Neymar, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on a vu Neymar porter l'équipe du Brésil, gagner la Coupe des Confédérations.
Mais
Neymar,
même avec
c'est 5 ans de 2 buts en 72 sélections. Et c'est quelqu'un qui est au Ballon d'Or, c'est-à-dire que parmi les 10 premiers du monde depuis 2011. Comment vous pouvez avoir un tel joueur et ne pas le mettre dans des conditions et vouloir qu'il soit égal à tous les autres qui sont de la pacotille à côté de lui?
Je rebondis sur ce que vous disiez, Rémy, sur l'équipe du Brésil, parce que c'est au Brésil qu'on s'inquiète du sort de Neymar.
Neymar n'a pas la qualité de Messi, Maradona ou Cristiano Ronaldo, qui peuvent ou pouvaient gagner un match à tout moment. Et cela me dérange que la plupart des fans et des médias continuent de tapoter Neymar dans le dos alors qu'il se comporte comme un enfant gâté. Sur le terrain, il a déjà montré plusieurs comportements inappropriés au sein d'un collectif. Contre le Real, par exemple, il a pris un jaune en première période et il aurait pu être exclu en seconde. Vous vous imaginez s'il fait ça avec le Brésil au prochain mondial? Ça pourrait être désastreux pour nous. Avec Neymar, nous sommes en train de créer un monstre que certains considèrent comme un génie.
Ao invés de corrigir o monstro, ele vira gênio.
Walter Casagrande, ancien international avec la Seleção, qui est dur à Alejandro Valente avec Neymar.
Il est
pas plus dur que nous d'ailleurs.
Peut-être un peu trop dur parce que quand même Neymar est un joueur extraordinaire il a des qualités extraordinaires à condition qu'il soit bien coaché. Rémy rappelait qu'à Barcelone quand même il a donné sa pleine mesure. Avec le Brésil des Tite, on voit un Neymar épanoui et collectif. Donc c'est un joueur qui a du potentiel et même quand il critique son carton contre le Real Madrid, on se rappelle en 98 Zidane s'est fait expulser contre l'Arabie Saoudite et ça n'empêche pas Zidane d'être le héros de cette Coupe du Monde. Donc on peut avoir du caractère, on peut faire des bêtises et rester quand même un joueur très important dans une équipe. Donc je trouve un peu sévère quand même ce jugement.
Gilles Verdez.
Après, avec le développement des réseaux sociaux, de la communication, avec ces joueurs qui sont beaucoup plus que des joueurs, qui sont des marques internationales, vous avez des égos qui sont surdimensionnés. C'est ça le problème aussi, c'est que Neymar, il se sent et il l'est comme le roi de Paris. Donc qui peut lui parler? Et le problème, c'est qu'au PSG, personne ne peut lui parler. Vous avez un président Nasser qui n'est président que parce qu'il est ami avec l'émir du Qatar. Il n'a un pouvoir décisionnaire que très limité. L'émir, il va pas venir parler tous les jours à Neymar. Le directeur sportif, c'est une ombre du nombre du nombre. On sait pas pourquoi il est venu, sinon pour empêcher le service communication de faire son boulot et puis tout blinder au camp des loges pour bien vérifier que rien ne sorte. Ça va. Du coup, il y a des burn-out à tous les niveaux du club. Maxwell, lui, c'est le gars qui attend son heure. Et l'entraîneur, il n'a aucun pouvoir et aucune vision. Donc c'est très compliqué au PSG. Le PSG souffre, à mon avis, d'un défaut de verticalité énorme.
De gouvernance.
Ah, ce que je disais.
Oui, shérif. Mais pour en venir à l'équipe dans le contexte brésilien, c'est assez nettement différent. Donc, comme disait Alejandro, il y a Tite qui vraisemblablement arrive à bien gérer cette équipe du Brésil. Les deux autres choses, c'est qu'il faut pas oublier que depuis les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, Neymar n'est plus capitaine. Donc, quelque part, on a pris un peu la mesure de comment de procéder à des garde-fous autour de Neymar. Je finis. Et dans le jeu du Brésil, il y a un deuxième dépositaire du jeu au Brésil, c'est Casemiro. Ça va te faire plaisir, Rémy, du Real Madrid. Voilà, on se répartit un peu tactiquement. Donc voilà, je pense qu'en équipe du Brésil, il est plus borduré. Et autant Neymar est plus grand que le PSG, autant la Seleção est plus importante que Neymar.
Peut-être,
pour l'instant.
Peut-être sent-il aussi poindre à terme la menace Philippe Coutinho, qui joue à peu près sur le même poste que lui et qui peut.
Le peu que j'ai
faire,
vu,
le faire
peu,
ce qu'il n'y a pas au Paris Saint-Germain.
Le peu que j'ai vu, c'est que ça fonctionnait pas mal entre eux.
16h30 à Paris, on se retrouve juste après.
Radio Foot International.
Antoine Grenier.
Retour au studio 41 de RFI et dans le Café des Sports, toujours avec Rémy N'Gono, Gilles Verdez, Chérif Guémour et Alejandro Valente. Je peux vous dire que pendant la pause, ça a continué à parler de Neymar. C'est un sujet quasiment inépuisable. Mais on va quand même parler un peu de Ligue Europa. Ça fait moins rêver que la Ligue des Champions. Mais quand même, il y avait trois clubs français à l'affiche. Chérif Guémour, trois clubs, c'est pas mal. Marseille, Lyon, Nice. Je les donne dans cet ordre parce que ça correspond à leur résultat d'hier soir en 16e de finale aller, en tout cas à la manière dont ils ont été convaincants. Et on va commencer par l'Olympique de Marseille qui a tout simplement surclassé les Portugais de Braga. Victoire 3-0, doublé pour Valère Germain, 11 buts sur ses 13 derniers matchs et un but également de Florian Thauvin, lui aussi très en forme. Valère Germain, l'homme du match, on va le dire, qui était plutôt satisfait.
Depuis début 2018, on est sur une très belle dynamique. À part le match contre Saint-Etienne la semaine dernière, on n'a pas fait un match exceptionnel. Mais voilà, depuis début 2018, c'est très bien ce qu'on fait. Et on a envie d'être à chaque fois le jour du match pour montrer la qualité du groupe. Et je pense qu'il y a énormément de qualité, c'est pour ça qu'on fait des belles prestations.
Gilles Verdez, l'Olympique de Marseille qui bat Braga 3-0, qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
C'est normal, je trouve même que une grande équipe de Marseille aurait dû en gagner 5-6-0 face à cette extrêmement faible équipe de Braga. Moi, c'est ça qui m'a sidéré. Alors oui, Marseille était efficace. Oui, la défense, pour une fois, de Marseille n'a pas encaissé de but. Oui, Valère Germain a inscrit un doublé très bien. Mais franchement, il y avait rien en face. Donc c'est la moindre des choses de gagner 3-0 quand même. Et moi qui adore le football portugais, là je suis quand même tombé de quelques étages en voyant Braga.
Oui, on peut dire quand même que Braga quatrième du championnat portugais, mais après on peut relativiser effectivement. Porto est le leader et on a vu sa qualité face à Liverpool. Donc c'est vrai que le championnat portugais n'est pas au mieux.
C'est vrai, c'est très inquiétant pour le championnat portugais.
De là à n'en faire qu'un match d'entraînement, Chérif Guémour ?
Non, parce que c'était en gros l'équipe bis. Donc sur le banc, il y avait quand même Thauvin, Sakai, Sanson. Donc voilà, avec une équipe bis, 3-0, enfin, c'est
quand même fin de match quand même.
Oui, mais bon, moi je parle du début match. Non, un petit point positif, c'est la sortie d'hibernation, la longue hibernation de Dimitri Payet, parce que la Coupe du Monde approche, donc il commence un peu à se réveiller. C'est tout. Pour le reste, je sais même pas si Johan Pelé a touché un ballon. Non, 1, 2, 3, pas beaucoup.
Pas énormément. Ouais.
Donc voilà. On évacue.
Il en a touché moins que contre Saint-Etienne. Rémy N'Gono, Marseille a cherché son grand attaquant tout l'été, a recruté Mitroglou pour 15 millions d'euros, alors qu'ils avaient finalement Valère Germain sous la main.
Ah oui, et Mitroglou, de toutes les façons, quand il tire ici en France, le ballon atterrit au Tchad, pour l'instant. Donc, pour une fois que Marseille a pu au moins faire une fausse opération, et finalement, elle est positive, c'est que au moins ça a réveillé Valère Germain, qui voit quand même un concurrent qui a un pied cassé, et du coup, il profite pour enfiler quelques... Bon, maintenant, quand on essaie de regarder le match, moi je dis toujours, c'est le résultat qui compte d'abord. Donc si aujourd'hui Marseille gagne, moi je dis, ça compte beaucoup parce que ce Marseille-là ne donnait pas autant de victoires. Si Marseille est constant au niveau du championnat, autant j'ai critiqué ce Marseille version Garcia qui était vraiment frileux au début, mais aujourd'hui je trouve quand même que ce Marseille a réussi des conquêtes et réussi à annihiler des équipes, même si c'est une équipe portugaise. On ne va pas dire que Braga soit arrivé là par hasard, mais tout au moins on a vu les équipes françaises perdre contre des équipes qui ne valaient pas un pesant de respect, des équipes en carton, en bambou totalement. Donc aujourd'hui, moi je félicite Rudy Garcia de pouvoir au moins faire respirer certains joueurs et d'aligner d'autres et d'avoir au moins cet élan, gagner 3-0. On ne peut pas critiquer ça, on ne peut que féliciter.
Non, mais heureusement que Rudy Garcia quand même procède à du turnover sur un match comme ça, ce qui montre bien que la priorité des équipes françaises, c'est pareil pour Lyon, c'est pareil pour Nice, on l'a vu vraiment là, et Marseille c'est la même chose, c'est pas la Ligue Europa, c'est le championnat. Alors l'intérêt de ce match-là pour moi, c'est que ça rehausse quand même le classico contre le PSG, Hein, dans le contexte actuel, ce classico, il vaut très cher. Entre un Marseille, c'est vrai, qui redevient solide, un peu conquérant, et un PSG qui doute, et le match de Coupe de France, voilà, c'est bien pour le foot français, parce qu'on va avoir dans deux compétitions, deux vrais matchs PSG-Marseille.
Surtout que Marseille doit jouer son match au retour dès la semaine prochaine face à Braga, donc cette victoire lui permet quand même d'arriver les cœurs légers, disons, au rendez-vous du classico, et un classico qui va peser beaucoup sur le PSG, quand même, le double classico, parce absolument. Que c'est dans les jours précédents le
Braga. Braga, c'est pas Paris. Il va quand même falloir trouver encore d'autres ressources. Il va falloir aller piocher.
Bah déjà,
oui, est-ce
déjà.
Que Marseille en est capable?
Oui, mais je trouve que alors là, pour le coup, cette victoire-là, non pas qu'elle donne des certitudes, mais elle leur permet de négocier ce qui aurait pu être un petit écueil et qui n'en est pas un du tout. Et là, tout le mérite à eux est d'avoir pris sérieusement ce match. Tout
non,
à fait.
Non, il y a une confirmation au niveau de Marseille, c'est qu'il y a un vrai fond de jeu, il y a une idée de jeu, ça ressemble à quelque chose. Il y a qu'à voir le but de Thauvin, le petit 1-2 là qui se font à deux là, avec le petit Lopez. Moi, je vois des latéraux qui montent, je vois une équipe type de 11 joueurs, on peut en incorporer 3 en cours de jeu et ça colle. C'est pas génial, c'est pas brillant. On sait que l'objectif maintenant, ça va être décrocher la place pour la Ligue des Champions s'ils en sont capables. Et non, tout est au beau fixe par rapport aux objectifs relativement corrects qui s'étaient fixés. Ils sont dans les temps de passage. Et la suite, on verra.
Et entre parenthèses, on a quand même deux potentiels internationaux en défense du côté de Marseille.
C'est
Adil Rami, il est peut-être très loin dans la hiérarchie, mais il était à l'Euro. Et il y a Jordan Amavi.
Oui, alors Rami, il est loin quand même, hein. Mais il est très solide. Moi, je le dis honnêtement, je n'attendais pas un Rami quand même aussi solide, parce que avec Luis Gustavo, pour moi, voilà les deux pierres angulaires. Et Mandanda quand il est là, mais c'est les deux pierres angulaires du socle sur lequel s'arrime Marseille. Donc Luis Gustavo, on le savait, mais Rami, il est vraiment solide. Il fait une belle saison. Il y a rien à dire là-dessus.
On parle même de Bounassar de plus en plus, même si ça paraît un peu relevé de l'imaginaire.
Effectivement. Il est entre la Guinée et l'équipe de France. Il n'a pas encore été international, ni d'un côté ni de l'autre.
En tout cas, il peut profiter de l'absence de concurrence sur le poste d'arrière droit.
Thierry Guémont.
Il y a 3 mois, on parlait de crise à Marseille. Voilà, tout est dit. Tout est dit.
C'est le foot.
Rudy
Garcia a mis du temps. Rudy
Garcia, fallait le virer. Rien n'allait plus. Tout allait à volo. Non, c'est 3 mois après. Une fois de plus, il y a un fond de jeu. Ça ressemble à quelque chose quand on voit. C'est pour ça que je sais que je parlais de Dimitri Payet. Parce que Payet, il était pas à la hauteur des autres. L'équipe était en progrès. Lui, il était toujours en hibernation. Il était pas dedans. Le fait qu'il se réveille, peut-être parce qu'il sent que le vent du boulet est en train de passer pour la liste des 23 pour la Coupe du Monde. C'est un peu tardif, mais c'est plutôt bienvenu.
En tout cas, Rudy Garcia est un très bon entraîneur et français.
C'est pas ce qu'on disait il y a 3 mois.
Moi je le disais. Quand on compare Paris et Marseille qui vont s'affronter bientôt, au moins sur ce poste-là, je pense que Marseille est devant.
Il y a 3 mois, il fallait virer Rudy Garcia. Voilà. Aujourd'hui, on le garde. Il y a 3 mois, Bruno Genesio était un entraîneur parfait. Maintenant, c'est peut-être lui qu'il faudrait virer. En tout cas, hier, l'Olympique lyonnais s'est imposé. Rémi Ngono face à Villarreal, toujours un client, mine de rien, le sous-marin jaune.
Oui, un client qui a quand même perdu Bakambu. Et il faut déjà se le dire. Et puis, moi, je n'ai pas toujours cette tendance avec l'Olympique lyonnais, parce que c'est une équipe qui joue à peu près comme un intermittent de spectacle. Autant, nous avons vu contre AS Alkmaar Lyon mettre 11 buts en 2 matchs et tout le monde a eu à danser. Le même Lyon a quand même battu la Roma où il y avait Salah, Mohamed Salah, avec les échos, avec Nainggolan et tout, par 4-2. Et tout le monde disait que bon, c'est ce Lyon-là qui va remporter la Ligue Europa. Mais finalement, ils se font ruiner, tabasser, humilier par Ajax d'Amsterdam. Mais bon, aujourd'hui,
Comme Rémi n'a rien à dire sur le présent, il remonte toujours à des années en arrière.
Attendez, si nous ne regardons pas d'où nous sortons, nous ne saurons jamais de là où nous allons. Aujourd'hui, c'est il n'y a pas Il n'y a pas de cela 10 ans. Je vous dis bien que c'était la saison dernière où j'étais ici avec El Refe. Il y a de cela seulement 7 mois. Donc, à une certaine période, dans cette équipe de Lyon qui a changé, je peux vous dire, par exemple, qu'ils ont perdu Tolisso. Je peux vous dire, par exemple, qu'ils ont perdu la Cassette. Est-ce que ce Lyon-là, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir Mariano Diaz qui est venu, est-ce qu'il est plus fort que la Cassette? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se poser la question aujourd'hui si Lyon est au milieu du terrain plus solide. Et bien évidemment, regardez comment est-ce qu'on peut se projeter. Quand vous regardez ce Lyon-là en championnat, aujourd'hui, il gagne. Et demain, il perd. Après, il regagne. Donc moi, je me dis, Lyon, aujourd'hui, est une équipe totalement instable, de telle sorte que dès que Lyon gagne, on dit il va gagner et après il va remporter tel ou tel trophée. Mais il y a un proverbe africain qui dit que toutes les fleurs ne donnent pas de fruits.
Sur ce proverbe africain, on va écouter Jean-Michel Aulas qui était content d'avoir battu une équipe qui avait battu pas n'importe qui.
Oui, on a vu effectivement une réaction de l'équipe lyonnaise, mais on a vu surtout un grand match. On a vu une équipe de Villarreal très très forte, on le savait puisqu'on les avait vus jouer et battre le Real Madrid à Madrid il y a quelques jours. Donc il a fallu non seulement qu'on corrige nos défauts qui étaient de quelquefois ne pas avoir la possibilité de se transcender, de se surpasser sur le plan mental, d'être un peu dépendant des fêtes de jeu ou des événements. Et là, on a vu non seulement cette capacité à se mobiliser dans un grand match, dans un très grand match, mais aussi techniquement à être véritablement à un très bon niveau.
La victoire sur le Real, c'était il y a quelques jours pour Jean-Michel Aulas. Selon mes statistiques à moi, c'était il y a un mois. Ça fait beaucoup. C'était pas le même Real à l'époque.
C'était pas le même Real. Mais alors moi, très honnêtement, pour reprendre une de ses paroles, j'ai aussi vu un très beau match, ou tout au moins une très belle deuxième mi-temps. Ouais. Je me suis régalé. Ouais. J'ai vu des super buts. J'ai vu un Memphis Depay en tirant instantanément là un magnifique but pour un remplaçant, très bien. J'ai vu Mariano Diaz, légitimement, sans doute critiqué parfois, mais qui là fait clore définitivement le bec de Rémy Ngono, parce que sur le match d'hier, vous pouvez pas dire qu'il est mauvais. Il fait un très bon match. Sa feinte de corps et son accélération.
Attendez.
Il n'y a pas que ça.
Je vous dis, un défenseur ne peut jamais commettre cette erreur de laisser le côté de l'ouverture. Mais attendez, c'est pas possible.
Si vous le critiquez hier.
Est-ce que tu connais beaucoup de numéros? Attends, Rémy, s'il te plaît. S'il te plaît, tu vas partir.
Impossible.
Chérif. Est-ce que tu connais beaucoup de numéros 9 qui ont cette pointe de vitesse? Moi, j'en connais pas beaucoup dans le football actuel. Tous les petits dribbles, tous les petits dribbles dans les petits espaces, le jeu dos au but, le gars, il a quelque chose. Quand on disait que le gars, il a les pieds carrés, qu'il est trop individualiste et ça, autant il a été individualiste, il a remis dans le bon sens du terme et il a fait très mal. Je dis pas que c'est une révélation, mais là vraiment, j'ai été impressionné. Maintenant, je suis d'accord avec Gilles, c'était un très beau match. On va quand même pas bouder notre plaisir, c'est quand même le Villarreal, cinquième de la Liga. C'est pas n'importe quel championnat, la Liga, ça reste le meilleur championnat du monde, jusqu'à ce que les Anglais reviennent, et ils vont sûrement revenir. Donc voilà, c'est la Liga, c'est Villarreal. Tu leur mets 3 buts, tu gagnes 3-1, t'as une bonne option, je suis désolé, pour le match au retour. Et puis voilà, il y a un bon collectif et quoi dire de plus? C'est une belle performance.
Est-ce que tu as vu le nombre d'arrêts de Lopez à bout portant? Et moi, de toute façon,
je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Non, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Mais alors pourquoi Villarreal n'a pas plus d'occasion de but? Explique-moi pourquoi aussi.
Gilles Verdez, on parle.
Il y a Bacca quand même devant. Il y a Bacca. On l'a pas trop vu.
Je vais pouvoir poser la question.
Mais il n'y a pas Bakambu. C'est à peu près comme si Real perd son Messi. C'est comme Barça perd son Messi. Si Real perd aussi son Ronaldo. Voilà.
Voilà, Bakambu, le Messi de Villarreal. On s'en souviendra. Gilles Verdez, on parle souvent de défaites encourageantes. Est-ce que là, on peut parler d'une victoire inquiétante? Parce que Lyon a montré de belles dispositions offensives. Défensivement, c'était pas forcément ça et ça donne pas forcément, ça encourage pas forcément pour le retour.
C'est sûr qu'il y a encore une fébrilité. Elle est due à la passe inquiétante que traverse Lyon en championnat, mais je rejoins Chérif sur le fait que la technicité de Villarreal, notamment au milieu de terrain, leurs latéraux, globalement, ils ont été assez bien jugulés. Dans les duels, Lyon s'est imposé. Donc non, pour moi, il faut s'appuyer sur ce match. Aulas a tout de suite dit, notre priorité, c'est le championnat. Bien sûr que la priorité, c'est le championnat. Donc ça ne suffit pas, mais c'est quand même une victoire, là, contre une bonne équipe. Voilà. Donc Lyon doit puiser des certitudes.
Alejandro Valente, 2 buts seulement de matelas de sécurité.
C'est la même avant avantage qu'a le Real Madrid à l'heure de venir à Paris. Donc on peut dire que c'est quand même pas mal. Après, je pense que quand même Lyon n'a pas la solidité, le fond de jeu que peuvent avoir Monaco ou Marseille aujourd'hui. Donc je pense que quand même ça reste une équipe capable des choses assez extraordinaires, comme Depay qui est un peu une tête à claque à sa mesure, un petit Neymar quoi. Deux fois,
ils ont autant de tatouages.
Des fois nous enchante et des fois nous désespère parce qu'il est très individualiste et il fait souvent les dribbles de trop. Donc voilà, il y a beaucoup de talent dans cette équipe, mais je vois pas une solidité capable de porter cette équipe lyonnaise jusqu'à la Ligue des Champions.
On va parler rapidement de Nice, hein, parce que le temps tourne. On va évacuer la question niçoise tout de suite. Mener 2-0, perdre 3-2 à domicile, c'est n'importe quoi.
Pas de défense. Alors, moi, je vais aller très vite. Hein. Il y a pas de défense. On le savait avant le début du match. C'était là que c'était frais. Et pourtant, Nice fait un très bon match. Un doublé de Balotelli. Beaucoup d'occasions, Gilles. Revois les occasions. Les occasions. Et voilà, deux fautes de jeunesse. On offre un penalty, on offre un coup franc. La sanction, deux buts. Tout est dit.
La moue dubitative de Gilles Verdez.
Oui,
pourquoi
Balotelli fait un très bon match. Mais Nice fait un très mauvais match. Pléa, c'est l'ombre de Pléa de la saison dernière.
Saint-Maximin.
Ok, d'accord. Ouais. Mais Cyprien.
Il y a des occasions.
Cyprien en sentinelle, c'est une catastrophe.
Déçu.
Série moyen.
Je suis déçu.
Et puis, on peut pas à 2-0, ça peut pas se terminer à 2-3, c'est impossible. Alors après, oui, il y a toujours le Lokomotiv Moscou. Est-ce qu'ils les ont vraiment pris au sérieux? Les équipes moscovites à cette époque-là, on se demande toujours. Mais ils ont quand même fait 8 matchs de préparation. C'est pas une équipe qui est venue découvrir la Côte d'Azur. Je sais pas si Nice a vraiment respecté le Lokomotiv, ou alors est-ce que Nice vraiment se désintéresse de cette Ligue Europa? C'est possible. Mais Balotelli et le désert.
Rémi Ngono.
Je suis quand même surpris. Chaque fois que une équipe française perd, on dit, ah, ils ont sous-estimé. Je devrais quand même dire que, lorsque moi j'essaie de regarder le parcours de Nice depuis peut-être 2-3 ans en Europa League, je me rends compte que Nice se fait battre à domicile par Apollon Limassol, une équipe chypriote. Alors, à une certaine période, je me rends compte que Nice termine dernier de son championnat, se fait tabasser également à l'époque par Schalke 04, qui à l'époque était 11e et qui avait mis son équipe de remplaçants. Il n'y avait que 3 titulaires sur la feuille de match. Je me rends compte que ce Nice nous déçoit chaque saison et chaque fois on dit que non, il y avait tel qui a bien joué, l'autre, non. Et une chose est sûre, c'est que Nice a aujourd'hui démontré que ce n'est pas une équipe qui peut tenir dans une compétition.
L'année dernière, ils nous ont pas déçus, Rémi.
Voilà,
ils sont allés où? Non, mais en Ligue 1. L'année dernière, ils ont pas déçu en Ligue 1. Nice.
Personne ne déçoit en Ligue 1, de toutes les façons.
Ah, ok, d'accord.
Personne ne déçoit en Ligue 1. La preuve, c'est que Nice peut finir là, tout comme aussi Lyon peut venir là. Et puis, d'ailleurs, en Ligue 1, il est arrivé que Montpellier gagne souvent la Ligue, gagne parfois la Ligue 1. Donc, avec ça, bon, on a vu même Monaco remporter la Ligue 1 devant Paris Saint-Germain. En Ligue 1, c'est la Ligue 1. La Ligue 1, c'est la Ligue 1.
Bon, voilà. D'accord, oui, mais c'est notre Ligue 1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
Voilà.
La Ligue 1. Bon, voilà pour la Ligue Europa. Compétition organisée, on le rappelle, par l'UEFA. On va parler maintenant de sa grande sœur, de sa très grande sœur, la FIFA, avec cette proposition de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale, qui veut mettre un coup de pied dans la fourmilière des transferts à Alejandro Valente. En gros, on change tout.
Ben disons que à un peu plus d'un an du rendez-vous avec ses électeurs, Gianni Infantino essaye de donner le maximum de crédibilité à son projet. Alors, il s'était exprimé déjà à plusieurs reprises sur l'incongruité du calendrier du marché des transferts et aussi sur les sommes faramineuses qui sont en jeu. Alors, c'est l'UEFA est également à la réflexion et on sent qu'entre la FIFA et l'UEFA, il n'y a pas toujours une réflexion commune à mener, ce qui est un peu dommage tout de même, d'autant qu'Infantino vient de l'UEFA. Cela dit, bon, ces propositions peuvent se résumer essentiellement au fait que le marché des transferts en été doit s'achever avant le début des championnats. Les Anglais ont donné l'exemple en le décidant dès cette année. Pour la FIFA ou l'UEFA, ce ne sera vraisemblablement pas le cas en 2018, mais plutôt au mieux en 2019. On veut aussi que le marché d'hiver revienne à sa dimension de marché complémentaire où on essaye de corriger des petites choses, mais pas de bouleverser les équipes. Et après, il y a beaucoup de mots qui sont lancés sans qu'on sache si on va vraiment y aller, du salary cap, la limitation de montants,
la moralisation des transferts, la fin de l'opacité, etc.
Il y a beaucoup d'idées, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a vraiment de concret derrière tout ça.
Gilles Verdez, bon. Changer le mercato pour le rendre plus intéressant, ou en tout cas éviter que les gros monopolisent la une, c'est ça l'idée à votre avis?
Oui, puis éviter globalement que la bulle du foot, parce que c'est une bulle aujourd'hui, n'éclate si on la régularise pas, si on ne veille pas à ce que l'argent fou ne tue pas ce sport, si on ne veille pas à casser les inégalités, si on ne veille pas à ce que les agents ne s'en mettent pas plein les poches, on est obligé. Et le président a raison de le faire maintenant, parce que c'est dans les mois ou les très courtes années parmi lesquelles vous avez été élu que vous pouvez réformer. Après, c'est trop tard, vous pensez à votre réélection. Donc voilà, je trouve qu'il a raison. Après, comme disait El Refé, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Les grands clubs vont s'opposer à lui, les grands pays sans doute. Donc voilà, c'est très compliqué, mais je trouve qu'il a le mérite d'essayer de faire quelque chose. Cet argent qui va dans les poches des agents sans aucun contrôle, c'est plus possible.
400 millions, Rémi, selon lui, sur 5 milliards du marché des transferts.
400 millions, c'est justement ce qu'a dépensé le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Rémi Ngolo. C'est ça qui vous faisait rire?
Ça me fait beaucoup rire parce que... Bon, quand je regarde les statistiques d'une agence suisse qui dit quand même qu'en 2016 déjà il y avait 8,5 milliards de dépensés pour les clubs des 5 meilleurs championnats, des 5 championnats européens. Alors aujourd'hui, Gilles Verdez me dit on va contrôler tout ça. 8,5 milliards. Donc Gilles Verdez va prendre Gianni Infantino, ils iront devant les boutiques du Paris Saint-Germain dire que le maillot là ne doit pas être vendu à tel prix, l'autre ne doit pas être les produits dérivés et tout, puisque des clubs sont comme des entreprises. C'est-à-dire que mon entreprise peut faire tel chiffre d'affaires et l'autre...
Que ça continue, que ça
mais attendez, mais vous avez déjà vu une entreprise à laquelle on dit au monde, en fait, vous n'avez pas le droit d'avoir de morale.
Rémi Ngono.
Qu'est-ce que ça veut dire la morale dire si je gagne mon argent? Si je gagne mon argent à partir de mon travail, c'est quoi le travail? Le travail, c'est que vous fournissez des efforts, vous avez un plan marketing qui vous permet de pouvoir arriver à l'excellence. Si aujourd'hui vous me faites comprendre que un joueur, un club qui est là, qui ne fait pas de plan de marchandising, qui ne fait rien pour peut-être vendre des produits dérivés, qui ne fait rien pour...
Vous trouvez normal qu'un agent empoche énormément d'argent et que le club qui a formé ses joueurs a gagné des clopinettes?
Je vais par exemple te dire que l'agent dont tu parles, qu'il est en train de gagner de l'argent, il faudrait aussi demander, vous trouvez que c'est normal que une maman qui a accouché son enfant, que l'autre gagne plus d'argent, que le club gagne plus qu'elle, ou bien et tout. Si on arrive à ces conditions, il y a des règles qui ont été établies. Et si par exemple un agent, c'est aussi quelqu'un qui fait de la prospection,
qui vous met dans la loi des jungles.
Ouais, mais il y a déjà des règles. Cela veut dire que force des règles, on arrive à une sorte de protectionnisme qui va être de paternalisme qui est même hors norme, parce que ce n'est plus possible dans ce monde-ci. C'est pour ça que je dis que à El Refo aujourd'hui, vous allez me dire, pendant que les clubs sont en train de négocier les marchés de transfert avec les chaînes de télévision, vous allez dire à un PDG d'une chaîne de télévision, ne donnez pas telle somme d'argent à tel club, vous allez dire à tel autre.
Infantino cite un exemple, le sport américain, qui est quand même pas un sport amateur, hein, ce sont des sports, la NBA, etc., qui brassent énormément d'argent et qui arrivent à avoir des règles relativement efficaces.
On arrive au communisme chinois.
On va résumer. Touche pas au Grisby du côté de Rémi Ngono. Va falloir que ça change du côté de Gilles Verdez. On va avoir du mal à vous départager aujourd'hui.
Toujours la morale.
Parce que c'est l'heure, c'est l'heure des cartons.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oulala, carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Rien à dire.
Allez, c'est donc le moment de vos coups de gueule, vos coups de cœur dans le café des sports. On va commencer par Gilles Verdez.
Un coup de cœur, un carton vert, c'est rare, mais à la commission de discipline de la Ligue, je la critique tout le temps, il faut la critiquer, mais là, elle a bien œuvré. D'abord parce que la commission a suspendu Malcolm pour simulation, c'est très bien, l'éthique dans le football, c'est bien. Et surtout parce qu'elle va ouvrir un dossier à l'encontre des insultes racistes présumées, je dis bien présumées, présumé à l'encontre de Mario Balotelli. J'avais peur que ce dossier soit enterré. Ça aurait été un scandale. S'il y a eu quelque chose, je suis pour des sanctions très dures, non seulement contre le public, mais aussi contre le club. Donc c'est très bien de mener ce dossier à terme. Bravo la commission.
Du coup, vous êtes pour pénaliser les simulateurs, les gens qui se laissent tomber volontairement et que la Ligue soit plus sévère à leur égard.
Ah bah là, je trouve que un match de suspension ferme avec sursis, c'est très bien. On critique souvent les arbitres, mais il faut que les joueurs les aident.
Sheriff Guémour, jaune, rouge, vert.
Carton vert à mon équipe fétiche Ligue des Champions cette année depuis les poules, l'équipe de Tottenham, qui a encore déjoué les pronostics en ramenant un très très bon 2-2 de la Juventus. À mon avis, ils auraient pu gagner. C'est une vraie équipe, il y a un vrai entraîneur, Pochettino, dont on parle de plus en plus. On parlait d'un grand entraîneur à Paris, et ben celui-là, il faudrait peut-être le cocher dans un coin d'une case, parce qu'il a joué au PSG. C'est une équipe magnifique, hein, et qui symbolise aussi à sa façon, à mon avis, le grand retour des clubs anglais.
Et un but super de Christian Eriksen.
Évidemment.
Au passage.
Et qui vient de l'Ajax.
Voilà, c'est à préciser. Rémy Ngono, jaune, rouge, vert, ça vient du Facebook.
Carton vert de Bello Diallo, de ma page Facebook, Rémy Ngono officiel, qui, bien évidemment, est l'un des rares à se soucier de ces grands joueurs africains, comme Gilles Verdez, à qui j'adresse aussi le carton vert, toujours avocat défenseur des causes de l'Afrique. Donc lui, il est en train de donner ce carton vert à qui? À deux Africains qui ont merveilleusement brillé, à savoir Mané et Salah, mais malheureusement, ce qui ne font pas la une des journaux, malgré le triplé de Sané, on n'en parle pas. Oh, d'ailleurs, vous le savez très bien. Donc, on ne peut pas, comme on dit toujours, avec des joueurs africains. Ils marquent, ils font des choses merveilleuses. Non seulement ils sont moins chers, mais leurs actes et leurs actions sont très peu valorisés. Comme le dit un proverbe africain, les miracles du saint qui viennent de la brousse ne sont jamais vantés en ville.
Et que ceux qui peuvent voir le ralenti aillent voir le but de Mohamed Salah, c'est une merveille. Allez, Randro Valente, carton.
Ah ben, dans la foulée, rapidement, au football anglais, on disait qu'après les Boxing Day, ça allait être la cata pour ces huitièmes de finale des Ligues des Champions. Finalement, on a vu City et Liverpool gagner largement à l'extérieur. On a vu Tottenham, comme l'a rappelé Sheriff, faire un très bon match à Turin. Donc, bravo aux clubs anglais qui ont tenu le coup.
Et le carton du Café des Sports, il va à Gérard Lopez, le président du LOSC, qui a chargé son ancien entraîneur, Marcelo Bielsa, en disant qu'il avait mis le projet en retard. Reste à savoir quel projet. Merci à David Finzel, merci à Laurent Salerno, on embrasse encore Guillaume Ploquin et on vous dit à lundi.